Alors, je vais chuchoter. Comme d'habitude, je me suis posé la question, mais est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire lors de cette soirée-là? Je vais essayer. Donc, je crois que je n'avais pas très bien compris qu'il faut parler, qu'il aurait fallu parler de ses propres projets. Donc, mais je vais essayer de le faire aussi parce que ce que je fais moi, c'est, vous avez entendu, je gère un peu les maîtres de la caverne où on offre aux étudiants d'utiliser les différents médias, différents arts dans leur apprentissage, comme Andrea par exemple, il est un exemple qui est là. À un moment, il y avait un séminaire sur Foucault et lui, il a dessiné depuis toujours, donc il a donné son interprétation de l'œuvre de Foucault en utilisant la peinture. Et ça a donné quelque chose de super, parce qu'en science humaine, on n'est pas seulement dans l'établissement des faits, c'est pas seulement, bon, ouais, mais on est aussi dans l'interprétation. Et l'interprétation des textes antiques, etc., mais aussi modernes. Et dans l'interprétation, on peut aussi bien utiliser la parole que tout autre médium. Et on oublie souvent aussi le vocal, l'ouïe, tout ce qui est sonore, etc. C'est pourquoi on offre aux étudiants d'utiliser la musique, le théâtre comme Colin l'a fait il y a quelques années, le dessin, la bande dessinée. En ce moment, il y a une étudiante qui fait, par exemple, qui se penchait sur le concept de mimesis chez Aristote et Platon, et au lieu de faire un travail théorique, académique, elle termine maintenant son projet d'un livre illustré pour enfants, pour expliquer aux enfants, à l'aide d'un petit enfant dans son histoire qui fait le parcours à l'intérieur d'Athènes où elle rencontre Platon et Aristote, elle donne une présentation de ce que c'est la mimésis et ce que ça pourrait être. Voilà, mais pour venir à quelque chose de plus large, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir en général à cette relation entre art et science. Et à cet égard, j'ai deux influences, je dois dire. D'un côté, c'est Aristote, et de l'autre côté, c'est un peu la philosophie de la science du dernier siècle, ou des dernières décennies, disons. Et c'est une question que j'aimerais poser à vous aussi, parce que je ne suis pas sûr dans quelle mesure ce que je présuppose, moi, comme donné, comme établi, dans quelle mesure c'est encore présent. Par exemple, il y avait des longues discussions dans le siècle passé autour de la guerre des sciences, autour d'une interprétation, une autre réflexion de la science. Qu'est-ce que la science peut faire? Et à cet égard, il y avait une distinction qui me semble fondamentale, la distinction entre un savoir 1, mode 1 et un savoir mode 2. Je ne sais pas si ça m'intéresserait de savoir si vous avez déjà entendu parler de ça. Parce que le savoir mode 1, c'est un peu le savoir établi depuis, qu'on a créé depuis toujours, qui vise un peu l'établissement de quelque chose comme en physique, des lois éternelles qui enrichissent un peu le savoir de l'humanité pour toujours. Quelque chose qui est posé une fois, qui a validité pour toujours. Mais il y a aussi un savoir mode 2 qui est un savoir qui est plutôt contextuel, appliqué, concret. Il y a parfois aussi un savoir concret, mettons, une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est l'état des intersexuels, des personnes qui sont, qui sont nées avec une condition entre les deux genres. Et souvent on trouve que qui a un savoir sur la situation d'une telle personne? Il y a les médecins, il y a les biologistes, il y a les juristes, il y a les sociologues, il y a les psychologues, mais la personne elle-même, elle a un savoir concret, situé, au centre de tout cela, parce que chacune de ces disciplines a une certaine perspective sur cette problématique-là, mais qui peut réunir toutes ces perspectives scientifiques, c'est la personne elle-même, parce qu'elle sait comment aussi accentuer, quelle importance ont ces différentes perspectives, etc. Donc c'est un savoir concret qui est lié à quelque chose, à une vraie problématique sociétale avec laquelle on est confronté. Et ça, c'est très parallèle à autre chose, par exemple l'épistémologie féministe. Donna Haraway et Sandra Harding, etc., elles ont mis en évidence que la science en général, c'est comme Carol Gilligan l'a fait aussi pour la morale, était imprégnée par une perspective masculine qui a toujours envisagé l'universel en oubliant un peu le concret et le particulier et l'individuel. Et donc, ce qui s'est joué au niveau de la morale se joue aussi au niveau de l'épistémologie de la science. Il faut aussi tenir compte du fait qu'on a besoin d'un savoir qui est concret, contextualisé, qui doit être utile, avoir un impact concret. Ouais, voilà. Maintenant, Aristote. Oui, pour... Voilà. Non, juste court, une phrase. L'université est un lieu non seulement de la science, mais de la réflexion de l'humain dans son entièreté. Donc l'art a forcément sa place aussi à l'université. Elle doit être présente aussi, parce qu'autrement, on devient trop vite des êtres réduits à la recherche de la vérité. Et il n'y a pas seulement le vrai et le bien en philosophie. On est souvent menacé un peu par cette enquête du bien. Mais il y a aussi autre chose que le vrai et le bien. Il y a aussi l'avenir, il y a la contingence, il y a la projection vers l'avenir qui est ouvert. Et il y a la création, l'acte créatif qui. Et donc, pas seulement la science à l'université, mais aussi l'art a aussi sa place. Voilà.
Merci beaucoup.